Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composé des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tous les peuples écoutaient la lecture de la loi. Le scribe, Esdras, se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tous les peuples le voyaient, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tous les peuples, levant les mains, répondirent « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient et donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras qui était le prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tous les peuples « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » car ils pleuraient tous ensemble, entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez manger des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur.
Seigneur, sont esprit, tes paroles sont esprit et sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, tes paroles sont esprit et sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, tes paroles sont esprit et sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, tes paroles sont esprit et sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, tes paroles sont esprit et sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, tes paroles sont esprit et vie.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire au pied « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui paraissent pour le moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec le plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons avec plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ceux qui en sont dépourvus. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un seul membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement les apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner, ensuite il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde évidemment n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur.
Porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Les enfants du primaire sont invités à aller avec le père Vincent pour une homélie adaptée. En ce dimanche de la parole de Dieu, décrété par notre pape François, la liturgie nous offre justement quatre textes de la Bible, de la parole de Dieu. Deux de l'Ancien Testament, du livre de Néhémie, et puis le psaume aussi que nous avons chanté. Et puis dans le Nouveau Testament, la lecture de saint Paul et l'évangile de saint Luc. En nous rappelant que la parole de Dieu, c'est d'abord la deuxième personne de la Sainte Trinité, c'est Jésus. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Le Verbe était auprès de Dieu, il était Dieu. C'est Jésus, ce Verbe qui s'est incarné, qui est la parole de Dieu, qui a parlé grâce à l'Esprit Saint, par les prophètes, et qui nous parle aujourd'hui encore à travers ces textes. Alors l'évangile d'aujourd'hui présente une particularité parce que, en fait, c'est deux passages de l'évangile de saint Luc. D'abord le prologue, l'introduction, et puis au chapitre 4, le début de la vie publique, de la prédication de Jésus. Ce prologue de saint Luc nous dit qu'il a voulu composer un récit des événements qui se sont accomplis. Et ça nous rappelle d'abord que notre foi n'est pas basée sur des dogmes, sur des enseignements, sur un catéchisme, mais d'abord sur des événements historiques. La parole de Dieu s'est faite chair, elle s'est incarnée dans notre histoire. Et c'est ce que saint Luc a voulu faire, lui qui n'a pas connu Jésus. Ce n'est pas un apôtre, c'est sans doute un païen, un médecin, qui a été converti par la prédication de saint Paul, et qui a fait œuvre d'historien. Il est allé voir les témoins oculaires, pour nous donner un récit solide de ce qui s'était passé au temps de Jésus. Nous avons beaucoup de gratitude vis-à-vis de saint Luc. Imaginez un peu, si nous n'avions pas cet évangile, nous ne connaîtrions pas l'Annonciation, nous ne connaîtrions pas la Visitation, nous ne connaîtrions pas les bergers qui viennent adorer Jésus à Bethléem. Nous n'aurions pas la parabole de l'enfant prodigue, ni le bon larron au moment où Jésus meurt sur la croix, ni même les disciples d'Emmaüs, pour dire toute l'importance de ce travail de Saint Luc, travail solide, dont nous allons bénéficier au cours des dimanches de toute cette année liturgique. Donc Jésus arrive à Nazareth, et il se rend à la synagogue pour faire la lecture de la parole de Dieu, justement. Ce rassemblement des Juifs à la synagogue date justement du temps de Néhémie. Et le récit que nous avons entendu dans la première lecture, c'est l'inauguration, j'allais dire, de ces rassemblements pour écouter la parole de Dieu. C'était bien nécessaire à l'époque, puisque c'est le retour de l'exil à Babylone. Il faut reconstruire, Néhémie est le gouverneur qui reconstruit les remparts de Jérusalem, le temple de Jérusalem, mais qui doit aussi reconstruire, j'allais dire, spirituellement le peuple. D'où cette lecture publique de la parole de Dieu, de la Torah. Alors ne vous en faites pas, je ne vais pas parler du lever du jour jusqu'à midi, mais nous voyons bien que voilà, cela inaugure la liturgie de la parole à la synagogue, et puis la liturgie, nous avons pris la suite les chrétiens, la liturgie de la parole au début de l'Eucharistie. Nous aussi, nous nous sommes mis debout au moment de la lecture de l'Évangile, nous aussi nous répondons « Amen ». Nous avons gardé ce mot hébreu qui signifie « c'est solide, je peux y croire, je peux m'appuyer sur cette parole ». Et nous voyons Esdras qui lit dans le livre de la Torah, de la loi, puis les Lévites traduisent, donnent le sens et l'on peut comprendre. Nous voyons donc, puisqu'il faut traduire, qu'au retour d'exil, après 70 ans à Babylone, eh bien la plupart des Juifs ne comprennent plus l'hébreu. Même si aujourd'hui on a la chance de pouvoir entendre la parole de Dieu dans notre langue, bien il faut quand même l'homélie pour vous aider à en découvrir le sens et à mieux comprendre. Oui, Dieu parle pour s'adresser à notre intelligence et que ça éclaire bien sûr notre cœur. Nous sommes invités, nous aussi, à ne pas trop nous lamenter, à ne pas trop pleurer sur ce trésor qu'est la parole de Dieu dont nous bénéficions si mal. Nous sommes au contraire invités, comme nous y invitent Néhémie et Esdras, à la joie. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est notre rempart. La joie qui nous vient du Seigneur, parce que sa parole est bonne nouvelle. Dieu nous aime, Dieu veut notre sainteté, Dieu veut que nous redevenions ses fils, que nous correspondions au projet merveilleux qu'il a pour nous. Voilà, c'est là la source de notre joie. Le psaume nous a redit avec des mots différents la même chose. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Voilà, la parole que nous entendons chaque dimanche est là pour nous réjouir. Dans la lettre aux Corinthiens, saint Paul prend une comparaison. Il compare le corps à l'assemblée des disciples. Vous voyez, donc, j'ai envie de dire, parmi nous, il y a des pieds, il y a des mains, il y a des oreilles, voilà, nous sommes différents membres. Et saint Paul nous rappelle que nous avons besoin les uns des autres, chacun dans notre communauté de Notre-Dame de Nazareth, a un rôle dans la prière, dans tel ou tel service, Mais nous avons tous besoin les uns des autres. Et cette comparaison nous rappelle que la nature aussi est parole de Dieu. Si l'homme a été fait de telle façon, si la femme a été faite de telle façon, si les corps des hommes comme des animaux ont des organes qui se complètent, c'est la volonté de Dieu, c'est ça que Dieu a voulu faire. Et c'est donc un enseignement pour nous. On a trop perdu le sens de ce que les anciens appelaient la loi naturelle. Oui, à travers la création, la façon dont Dieu nous a fait, dont Dieu a fait le monde, Dieu nous parle. Il y a un ordre dans la création, un équilibre à respecter et à nous en instruire. Alors je reviens à la prédication de Jésus à Nazareth, dans lequel il actualise, il ressuscite d'une certaine façon ce vieux texte d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Alors on a les problèmes de traduction, de sens. Je vais essayer de vous expliquer ça en deux mots, pas facile. Je vais dire trois phrases qui ont exactement le même sens, mais dont l'une a son origine dans l'hébreu, l'autre dans le grec et l'autre dans le latin. Voilà, quand je dis « Jésus est le Messie », « Meshiar », c'est l'origine hébraïque. « Jésus est le Christ », voilà, c'est le mot grec. « Jésus est loin du Seigneur », celui qui a reçu l'onction. Voilà, c'est l'origine latine. Donc on pourrait traduire aussi, vous voyez, ce texte d'Isaïe en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur a fait de moi le Messie ». Et Jésus nous dit, aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Vous voyez, Jésus déclare au début de son ministère qu'il est le Messie. Et l'oracle du prophète Isaïe rappelle sa mission. Apporter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils verront, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Alors justement, nous sommes dans une année jubilaire. Voilà, une année favorable pour que le Messie, le Christ Jésus, puisse accomplir toutes ces merveilles dans nos vies. C'est pour ça que le pape a voulu ouvrir une porte sainte dans une prison. Ça semble bizarre parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont aller passer cette porte sainte, je pense. Mais c'est pour que montrer voilà, que les vrais prisonniers d'aujourd'hui, ceux qui ont fait des choses mal, qui ont été condamnés, eh bien, il y a une issue de secours. Et cela est vrai, bien sûr, encore plus au niveau spirituel. Nous, les pauvres spirituels, Jésus vient nous annoncer la bonne nouvelle. Nous qui sommes aveugles, qui sommes prisonniers du péché, Jésus est venu pour nous libérer. Et voilà, c'est aujourd'hui que ça continue à s'accomplir. Je termine avec une prière du Père Leprévôt, puisque c'est aussi l'année jubilaire du 150e anniversaire de la mort de notre fondateur. Voilà ce qu'il disait, et ça rejoint ce que je viens de dire. « Je me lasse, ô mon Dieu, à tout lire et à tout écouter. C'est en vous seul que se trouve tout ce que je cherche et tout ce que je désire. Que tous les docteurs se taisent, que toutes les créatures demeurent en silence devant vous. Parlez-moi, vous seul. Parlez, Seigneur, parce que votre serviteur écoute et que vos paroles donnent la vie éternelle. Parlez-moi pour donner quelques consolations à mon âme. Parlez-moi pour me faire vraiment changer de vie, afin que la gloire et la louange en reviennent à votre nom. Amen.